Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Laetitia De Witt.
Madame, Monsieur, bonjour. Je suis heureuse de vous retrouver dans cette rubrique éphémérite de l'émission Un jour dans l'histoire. Et comme chacun le sait, cette année, nous fêtons le quadricentenaire de la mort d'Henri IV. C'est en effet le 14 mai 1610 que Ravaillac assassinait le bon roi Henri. Cet anniversaire figure parmi les plus importantes célébrations nationales de 2010 et témoigne de la popularité persistante d'Henri IV. Alors, comment Henri IV s'est-il installé dans l'imaginaire des Français ? C'est ce que nous vous proposons de voir dans cette émission, en nous intéressant à l'image d'Henri IV véhiculée par l'histoire et la légende au cours des quatre siècles qui nous séparent de sa mort. Et pour cela, j'ai le plaisir de recevoir Jacques Perrault. Jacques Perrault, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue au micro de Canal Académie. Vous êtes président de la société Henri IV, qui, entre autres, coordonne l'ensemble des manifestations et commémorations liées au quadricentenaire de l'assassinat d'Henri IV. Et tout d'abord, d'ailleurs, est-ce le nombre foisonnant de manifestations qui vous a amené à réfléchir sur l'image d'Henri IV à travers les siècles ?
Mais je crois qu'Henri IV est une personnalité tout à fait à part dans l'histoire. C'est un personnage qui, comme Napoléon, a contribué de son vivant à commencer à construire sa légende et qui, en fait, depuis quatre siècles, n'a pratiquement pas connu de purgatoire. Donc, c'est un personnage intéressant. Et c'est vrai qu'à travers son histoire et sa légende, c'est un peu toute la pensée de différentes époques qui apparaît.
Pensée et forme, puisque on voit qu'Henri IV, la mémoire d'Henri IV touche des domaines très différents les uns des autres.
Oui, je crois que d'abord, si on regarde la figure d'Henri IV, elle est très connue à l'ensemble des Français, en fait, et je crois que c'est le roi le plus populaire, c'est tout à fait évident. Ce qui explique d'ailleurs, comme vous le disiez à l'instant, l'importance, le nombre des manifestations qui sont liées à ce quadricentenaire. Je dois dire que la société Henri IV en organise peu elle-même, mais sinon un colloque important sur les régicides, c'est le sujet, mais du 16e au 19e siècle. Non, ce qu'on peut dire, c'est que Henri IV, en quelque sorte, a eu la chance de mourir assassiné. Comme l'a dit à sa manière Roland Mounier, ça avait été une idylle que ce règne contre qui, à la veille de l'assassinat, tout le monde criait. Et Mounier, qui, vous savez, a publié ce très beau livre sur l'assassinat d'Henri IV, disait encore « C'est un grand art chez un homme d'État soucieux de sa gloire que de savoir être assassiné à propos. »
Alors, vous commencez votre réflexion sur l'image d'Henri IV par les premiers temps après la mort du roi.
Oui, alors effectivement, il y a une première période qui est la période, en fait, en quelque sorte, de l'émotion. Les premiers témoignages sont ces textes, ces oraisons funèbres, ces déplorations qui prennent des titres de circonstances, discours lamentables, larmes et sanglots de la désolée France, recueil de vers lugubres, la chemise sanglante, en fait, et j'en passe. Et on remarque qu'il y en a eu presque une quarantaine de ces pièces, quand on compare à quelques-unes simplement, pour François Ier, pour Henri III ou pour même des souverains morts ultérieurement. Ça montre déjà un début d'entrée, une entrée dans la légende, puisque ce sont souvent des religieux d'ailleurs qui écrivent ces oraisons funèbres, et notamment des jésuites, les jésuites qui ont vu en quelque sorte passer le vent du boulet, puisque on leur reprochait d'avoir prôné le tyrannicide. Ces discours en fait montrent un roi déjà un petit peu déformé, pieux et dévot, c'est vrai qu'il était pieux, qui est soutenu par la volonté divine, mais aussi un roi vainqueur, le père du peuple et un roi clément. C'est déjà les premières lignes de ce que sera la légende d'Henri IV. Alors, parallèlement, vous avez les mémorialistes, vous avez les historiens, vous avez des gens comme Pierre Mathieu, qui était historiographe du roi et qui a publié en 1611 une histoire de la mort déplorable de Henri IV. En fait, je passe tout le titre qui est toujours long. Et ça fait partie des auteurs importants qu'on peut citer avec De Thou, avec Agrippa de Bigné. Et
Sully, voilà, vous mentionnez les mémorialistes, ils ont une part très importante, Sully en particulier, même si elle n'est pas toujours d'une grande partialité.
d'une grande impartialité.
D'une grande impartialité.
Exactement. Mais c'est vraiment... je reviendrai aussi sur Agrippa d'Aubigné, qui a été vraiment un compagnon de combat d'Henri IV, qui était un huguenot farouche, si je puis dire, et qui a l'esprit, qui ne manque pas de critiquer le roi, et à qui le roi avait donné un de ses portraits. Je ne résiste pas au plaisir de citer ce petit quatrain qu'il a placé en dessous d'un portrait qu'Henri IV lui avait donné. « Ce prince est d'étrange nature, je ne sais qui diable l'a fait, car il compense en peinture ceux qui le servent en effet. » Il aurait préféré avoir des espèces sonnantes et trébuchantes. Mais les économies royales de Sully, c'est vraiment une œuvre tout à fait importante. Sully a mis longtemps à l'écrire. Il l'a publié d'abord clandestinement au château de Sully-sur-Loire, sur sa propre imprimerie. Et ce qui est amusant, c'est le procédé qu'il a retenu sur la forme de ses mémoires, de ses économies royales, puisque, en fait, ses mémoires sont écrits à la deuxième personne. Sully se fait raconter sa vie par ses secrétaires, le médecin Labrosse, son écuyer Maignan, etc. Ce qui lui permet de s'adresser des éloges et parfois de passer sous silence certains faits qui le gênent. Alors, tout ça, ça fait partie des mémoires et des souvenirs et des analyses historiques faites par des acteurs de cette période. Il est évident qu'il n'y a pas tout à fait le recul de l'historien et que ce sont donc des éléments qui sont à la fois des sources pour l'histoire d'Henri IV, mais qui sont des sources qui, comme toute source, doivent être critiquées aussi.
Alors, vous faisiez allusion aux historiens à l'instant, puisque maintenant se clôt la période des mémorialistes, on en vient aux historiens. On n'a pas le temps de tout mentionner, malheureusement, mais on va s'intéresser bien sûr au premier important que vous citez, c'est Préréfix.
Alors oui, Préréfix, c'est tout
Préréfix, pardon. Pouvez-vous nous rappeler les circonstances de la publication de son Histoire du roi Henri le Grand ?
Préréfix avait été le précepteur du futur Louis XIV. Et il a composé pour le jeune roi l'histoire du roi Henri le Grand, qui a été écrite dans les années 40, 1640, mais qui n'a été publiée qu'en 1661. Et tout de suite, ça a été un succès énorme, et ce qui fait qu'il y a eu de nombreuses éditions en plusieurs langues. En plus, s'y est ajouté à partir de la deuxième édition un recueil de quelques belles actions et paroles mémorables de ce prince, c'est-à-dire d'Henri IV. Et ça a été en fait, en quelque sorte, la base, la vulgate de l'histoire et d'une certaine légende d'Henri IV. Et ce livre a en quelque sorte figé d'une certaine manière les différentes anecdotes. Il y aura d'autres ouvrages au XVIIIe qui vont être aussi importants, mais tous feront référence à Préréfix.
Et après, finalement, on passe très vite aux historiens contemporains dans le travail historique.
Dans le travail strictement historique, je dirais oui. Il y a eu d'autres types de publications, notamment au siècle des Lumières, on pourra en parler. Mais c'est vrai qu'on arrive à la fois au 19e avec quelques grands historiens qui ont tous touché à Henri IV, comme Lavis, comme Jules Michelet. Mais on arrive au 20e siècle avec un certain nombre de personnes. Et je crois que si on arrive à une période très récente, il faut reconnaître que la biographie de Jean-Pierre Babelon reste une œuvre tout à fait inégalée, dans la mesure où ça a été l'œuvre un peu de toute une vie qu'il a accumulée pendant toute sa vie, les fruits de recherches très importantes. J'étais à l'époque conservateur du château de Pau et il venait faire des séjours pour justement consulter tout ce qui se trouvait dans nos archives et dans notre bibliothèque. Alors c'est un ouvrage qui est paru dans les années 80 chez Fayard, mais qui a été réédité avec une bibliographie mise à jour et ça reste toujours une base. Et puis il faut dire qu'il y a une floraison d'ouvrages dont certains plus importants ou plus intéressants que d'autres. Certains mettent l'accent sur un aspect ou un autre de la vie d'Henri IV ou de l'époque de son règne. Je pense par exemple sur Sully, dont c'est l'anniversaire, 450e anniversaire de la naissance cette année. Sully, qui a une biographie de Bernard Barbiche. Mais je crois que si je commençais à citer tous les ouvrages, d'abord, je n'en finirais pas. Il en sort tous les deux jours en ce moment. En tout cas, ce qui montre que les éditeurs pensent que Henri IV est un beau sujet. Et ça nous réjouit. Mais il faut regarder un petit peu là-dedans, faire son choix.
Alors, nous allons évoquer maintenant Henri IV, héros du théâtre et du siècle des Lumières. Mais avant, je vous propose de marquer une courte pause.
La bibliophilie est à l'honneur sur Canal Académie. En compagnie de notre bibliologue Bertrand Gallimard Flavigny, vous découvrirez des ouvrages et manuscrits rares présentés avec esprit dans l'émission Au fil des pages. Le bibliologue, une rubrique de Canal Académie, à écouter et télécharger sur canalacademie.com.
Vous êtes bien à l'écoute de Canal Académie. Nous sommes toujours en compagnie de Jacques Perrault, président de la société Henri IV, avec lequel nous évoquons Henri IV après Henri IV. Et après avoir vu comment les mémorialistes, les historiens se sont emparés du bon roi Henri, voyons maintenant comment le siècle des Lumières détourne le mythe henricien à des fins finalement politiques. Et tout commence finalement avec Voltaire, qui en Bastillé cherche à produire une œuvre majeure et il choisit la geste henricienne finalement.
Tout à fait, Voltaire jeune, en fait, qui a envie de réussir, qui a troqué son nom d'Arouet pour celui de Voltaire, qui est embastillé, s'empare d'un sujet qui lui paraît porteur, entre guillemets. Il lui paraît aussi qu'il y a quelques points communs entre Henri IV et le régent, du moins il aurait envie de le prouver. Et il écrit ce qui s'appelle d'abord la Ligue, ou Henri le Grand, et qui deviendra, dès 1723, la Henriade. Alors, Voltaire a deux buts, je dirais. Il a un premier objectif, c'est effectivement de se faire connaître comme le grand poète du siècle naissant, en quelque sorte. Pour lui, il crée une épopée et il se voit digne d'Homère, de Virgile ou de Larios, ce que, en fait, la postérité ne suivra pas. Il ne le suivra pas, peut-être, sur ce chemin. En revanche, sa Henriade a eu un rôle extraordinaire dans la résurrection d'Henri IV après, disons, le règne de Louis XIV. Louis XIV, comme le dit quelque part Chateaubriand, Louis XIV n'aimait pas beaucoup qu'on fasse l'éloge d'un autre roi que lui-même. Donc, il faut arriver au XVIIIe, à Voltaire, déjà philosophe, et qui fait d'Henri IV un modèle du souverain éclairé, donc il le tire à sa manière. Alors, on peut se poser la question de dire, est-ce que c'est un ouvrage d'histoire ? Pas vraiment, quand on voit la liberté que prend Voltaire, puisque aussi bien il s'est brouillé avec le duc de Sully, qui ne l'a pas soutenu dans son conflit avec le chevalier de Rohan. Et ce serait un peu trop long de raconter l'anecdote, mais puisqu'il s'était brouillé avec le duc de Sully, il supprime Sully de la Henriade, il le remplace par Duplessis Mornay. Alors, peut-on écrire une histoire d'Henri IV sans Sully ? Je pose la question.
Et alors, qu'en est-il des autres auteurs des Lumières ?
Alors, les autres auteurs des Lumières vont être aussi importants. Tous sont touchés un peu à Henri IV, à leur manière. Diderot en parle, bien sûr, dès la première édition de l'Encyclopédie. Et puis, vous avez Condorcet, par exemple, Condorcet, qui apparaît, lui, d'une manière assez très anti-religieuse par rapport à Henri IV. Et il fait de son almanach anti-superstitieux un moyen de montrer que Henri IV était un roi philosophe, qu'il de lui naisse un certain nombre d'idées, la nécessité d'un état fort, délivré de toute suggestion spirituelle. L'almanach, en fait, son almanach était une charge violente contre l'Église. Et parlant de l'assassinat, ce que nous célébrons cette année, Condorcet avait écrit « Il n'y a que le fanatisme qui puisse armer le peuple contre ses rois ». Et derrière le mot de fanatisme, chez lui, il fallait lire les prêtres, les jésuites, l'Église. Il y a aussi le dictionnaire de Bell qui aussi, disons, élève un monument à la gloire d'Henri IV. Ce qui fait que Henri IV va vraiment être au XVIIIe siècle le modèle pour les souverains, le modèle donné au roi Louis XVI, et on le connaît par la gravure aussi, on associe Louis XVI à Henri IV.
Alors nous allons maintenant évoquer en fait l'explosion du succès d'Henri IV au théâtre, et ça se passe donc finalement au moment de l'avènement de Louis XVI.
Oui, tout à fait.
Puisqu'il est très intéressant, vous soulignez que finalement, sous Louis XV, il était totalement interdit, enfin, ou très mal vu, de faire allusion à Henri IV.
Surtout à la fin du règne de Louis XV, effectivement, et même interdit. Ce n'était pas le moment de donner des leçons au roi. Donc, c'est à l'arrivée sur le trône de Louis XVI que va se libérer toute une floraison de pièces de théâtre, toutes plus ou moins avec des argumentaires pas toujours d'une qualité folle, mais qui rencontrent un succès très important. Et au milieu de ces pièces de théâtre, il y en a une qui, je crois, doit être citée parce qu'elle a eu une importance toute particulière, c'est la partie de chasse de Henri IV de Collé. Collé était un lecteur du duc d'Orléans, qui par ailleurs a écrit des chansons érotiques, qui a publié des choses variées, mais qui a rédigé dès 1760, donc sous Louis XV, sa partie de chasse, mais qui n'a jamais été mise en scène publiquement avant le règne de Louis XVI. Et c'est une pièce qui n'est pas mauvaise du tout. Je l'avais montrée à un comédien français, Jacques Serres, qui en avait fait une analyse très favorable, ce qui fait que j'espère toujours qu'elle sera montée ici ou là. Ce qui est amusant peut-être de dire à propos de la partie de chasse, c'est qu'il y a eu une présentation en privé au théâtre du duc d'Orléans en 63, où jouaient en fait un certain nombre de membres de la famille royale et de l'entourage du duc d'Orléans. Et enfin, je peux vous dire, écrit Collé dans ses souvenirs, que la réussite a été complète. Monsieur le prince de Condé était ainsi que tous les autres spectateurs attendris jusqu'aux larmes. Ils en ont tous versé à chaque instant. Les acteurs étaient obligés de s'interrompre à cause des applaudissements redoublés qui se succédaient continuellement. Alors, ce qui est intéressant aussi dans la postérité de cette pièce de théâtre, d'abord, elle a été jouée un nombre énorme.
Surtout jusqu'à la fin de la première Restauration.
Oui, elle a été jouée jusqu'à 1791. Bon, ensuite, est arrivé le plus dur de la Révolution. À ce moment-là, il n'était plus question de parler d'un souverain. Vous savez d'ailleurs, mais ça n'est pas sur le théâtre, mais que Napoléon a rétabli le monument de la bataille d'Ivry, le monument à Henri IV, sur le lieu de la bataille d'Ivry. C'est le seul geste henricien qu'il ait eu, mais ce n'est pas inintéressant. Mais c'est évident que c'est la Restauration qui a vraiment relancé totalement la vogue henricienne dans une volonté politique qui n'était pas exactement la même, bien sûr, que celle des Lumières, mais qui était une volonté d'identité dynastique et qui rapprochait le souverain Louis XVIII ou Charles X de leur ancêtre Henri IV. Donc la partie de chasse qui est intéressante, et là on est dans l'histoire de l'art, si je puis dire, c'est qu'elle a été éditée avec un certain nombre de gravures, dont l'une a eu plus particulièrement une postérité tout à fait étonnante. Ces gravures sont d'après Gravelot, et il y en a une qui représente Sully au pied d'Henri IV, une scène de la pièce qui d'ailleurs vient des mémoires de Sully, des économies royales. Collé n'a rien inventé. Eh bien, cette gravure, elle a été reprise par des sculpteurs. On la trouve sur des motifs, sur des pendules, les deux personnages de Sully et Henri IV sur les pendules. On la trouve sur des tapisseries, les tapisseries de Vincent, les tapisseries de Le Barbier, et même les Bourbons de Naples en 1791 ont fait tisser une série de l'histoire d'Henri IV avec la même scène. Ce qui montre que la vogue d'Henri IV a dépassé les frontières de la France, et ce qui est tout à fait intéressant. Et parallèlement, puisqu'on parle d'histoire de l'art, je crois qu'il faut évoquer, accompagnant cette vogue à travers les écrivains, à travers le théâtre, cette vogue d'Henri IV qui se retrouve dans la peinture. Puisque si vous regardez les livrets des salons au XVIIIe, au XIXe, il y a un nombre énorme de pièces qui ont pour thème des scènes de la vie d'Henri IV, soit scènes de bataille, soit scènes plus familières ou Henri IV en famille. Et ça se retrouve à la fois au XVIIIe siècle et bien sûr pendant la Restauration. Au salon de 1814, il y avait 24 peintures qui avaient un thème de la vie d'Henri IV. Donc là aussi, on a une multiplication de représentations, d'accompagnement des publications, tout ça lié d'ailleurs à la légende avec un certain nombre de scènes. Et puis, on sait que ça se poursuivra d'une autre manière dans le reste du 19e siècle et au 20e.
Alors, au 19e et au 20e, vous montrez que le mythe d'Henri IV s'empare plutôt des manuels scolaires. Et aussi bien, vous dites, des manuels républicains produits par les historiens de la Troisième République que par des jésuites.
Oui, tout à fait. Je crois que...
Et tout le monde se montre favorable à Henri IV.
Alors, tout le monde est favorable à Henri IV, ne le montre pas toujours tout à fait de la même manière. Mais ce qui est intéressant, c'est le bon roi que l'on montre. Et c'est un roi qu'on montre en exemple pour ensuite aller démolir les autres, si je puis dire, notamment vu du côté républicain. Un universitaire de Pau a fait une petite analyse des livres de classe du 19e et du 20e. Et ce qui est intéressant, c'est de voir, c'est qu'il a essayé de relever les qualificatifs de la personne du roi. Le premier mot qui se retrouve le plus, c'est « bon ». Deuxième, « brave ». Troisième, « ami ». Quatrième, « gay ». Et de même, si on regarde les thèmes liés aux actions du roi, 1, c'est la guerre, 2, la paix, 3, aimer, 4, autorité, 5, industrie, 6, agriculture. C'est amusant de penser que l'industrie passe avant l'agriculture alors qu'on pense toujours au labourage et pâturage. 7, prospérité, 8, route. Et en fait, alors qu'aujourd'hui, je crois que le 4e centenaire de l'assassinat d'Henri IV met en exergue ses vertus de tolérance et de réconciliation, le mot tolérance n'arrive qu'au 15e rang, ce qui est tout à fait curieux. Et je n'ai pas cité les différents mots, c'est vrai que j'ai oublié de les noter sur mes notes, mais effectivement, dans les mots, c'est Paris vaut bien une messe, c'est la poule au pot, c'est le panache blanc et la bataille d'Ivry, voilà. Et en fait, si on regarde, d'abord, ce qui est intéressant aussi à voir, c'est que les livres de classe sont signifiants, comme on dirait aujourd'hui. On gomme les liens, parlant de la généalogie, on gomme tout à fait ces liens avec les Valois, alors qu'il est quand même le petit-neveu de François Ier. Et un auteur écrit « Devenu roi par le triomphe d'une juste cause, Henri IV appartenait moins à son lignage qu'au peuple auquel il rendait sa liberté. » Et sa mort, dit un autre auteur en 1956, « Sa mort fut la fin d'un âge d'or. Les Français devinèrent que le bon temps était fini et que les souffrances allaient recommencer. » On voit la doctrine républicaine reprend le dessus.
Alors, comme on l'a vu, Henri IV donc, est présent partout et au XXe siècle est tout à fait largement commémoré. En 1953, on fête les 400 ans de sa naissance en grande pompe. C'est impressionnant. Vous décrivez les cérémonies qui ont lieu pour transporter donc, son cœur qui se trouvait à La Flèche et qui va aller à Pau. Et l'accueil qu'en fait le maire de Pau et là, avec la présence de Vincent Auriol, qui est alors président de la République. Mais aujourd'hui aussi, les commémorations s'annoncent importantes.
Oui, je crois que d'abord le XXe siècle et le XXIe maintenant ont développé beaucoup les commémorations. Alors au XIXe, il y en a eu. Je dirais que la plus importante a été en 1889, le centenaire de la Révolution, qui était une volonté politique de la Troisième République. Au XXe siècle, effectivement, il y a trois grandes dates dans la vie d'Henri IV. Il y en aurait même quatre. C'est 1553. Donc, le quadricentenaire de sa naissance au château de Pau. En 1989, le quatrième centenaire de son avènement. Et il y aurait aussi l'édit de Nantes qui a donné lieu à des expositions et des colloques. Mais enfin, surtout en 2010, le quatrième centenaire de son assassinat. Et je dois dire que ce qui est intéressant de noter, c'est que Henri IV, à travers tout ce qu'on a un petit peu raconté sur la perception que les gens en ont eue, à la fois les politiques, les historiens, les philosophes, on n'a pas parlé des livres d'enfants, mais on aurait pu parler de ce fameux livre illustré par Job que beaucoup d'entre nous ont vu dans leur enfance et qui a notamment une image tout à fait terrifiante puisque pendant le siège de Paris, on voit une femme avec une soupière devant elle et la légende est « une mère mange son enfant ». J'imagine qu'il était mort quand même quand elle l'a mangé, mais c'est quand même terrifiant. Ceci étant, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a des vraies célébrations nationales et que ces célébrations, elles ont pris des formes différentes à chaque anniversaire. En 1953, vous le disiez à l'instant, ça a été entre Pau et La Flèche, en fait, que se sont passés les événements importants. Vous savez que le cœur d'Henri IV, selon ses volontés, repose au collège de ce qui est aujourd'hui le prytanée militaire de La Flèche, mais qui était le collège des jésuites qu'il avait créé à La Flèche. Et qu'en 1953, le maire de Pau a été extrêmement dynamique et a organisé des fêtes gigantesques et notamment a persuadé La Flèche d'accompagner à Pau le cœur d'Henri IV. Et je crois que les cérémonies ont été des choses qui paraissent tout à fait étonnantes dans une république qui célèbre un roi. Et je pense à ce cortège extrêmement impressionnant qui était à Pau et qui unissait à la fois des organismes publics et privés. Je ne résiste pas à dire la liste du cortège qui accompagnait le cœur à Pau pour l'amener à la chapelle du château. Corps des sapeurs-pompiers, musique de la 3e région aérienne, 32 groupes folkloriques, 2 sections en armes du 18e régiment d'infanterie, 100 soldats porteurs de torches, la fanfare de la garde républicaine, 60 élèves du prytanée militaire de La Flèche, une députation d'officiers supérieurs de la garnison. Et enfin, l'ensemble était encadré et fermé par 150 porteurs de torches, une nouvelle section en armes et la musique du 18e régiment d'infanterie. Ce n'est pas souvent qu'on a des cérémonies aussi importantes. Mais ce qui a été tout à fait exceptionnel, c'est grâce à l'entregent de Louis Salnave, qui était maire de Pau à l'époque, ça a été la présence du président de la République, ce qui n'était pas du tout évident en ce début de 4e République, en plus un président qui était socialiste. Et ce qui est tout à fait intéressant, c'est que je m'aperçois dans cet anniversaire, cette année, que les maires de droite ou de gauche répondent avec autant d'enthousiasme aux suggestions pour cet anniversaire. Mais la visite du président Auriol était un événement. Il a d'ailleurs été acclamé comme il n'est pas permis. Et il a pris la parole et il a su vraiment faire l'éloge d'Henri IV d'une manière tout à fait réaliste et dans un esprit à la fois de rassemblement vers l'unité française. Et il précisait « La force d'Henri IV, c'est en effet le sentiment national, s'attache quand l'assassinat d'Henri III fait de lui en 1589 le roi légitime de la France, apparaît surhumaine, tout est contre lui, etc. » Et il indique « Henri, roi sans couronne, général sans argent, rallie les Français égarés au chemin du devoir et de la victoire et de l'honneur. Et parce qu'il incarne, dit-il, les aspirations profondes du peuple français et que de plein pied avec le bon sens populaire, il connaît pour les avoir parcouru les provinces du royaume et leurs besoins, parce que jamais, même dans l'adversité, il n'a consenti à sacrifier une parcelle des droits de la couronne de France. Il exalte les dévouements, ramène à l'obéissance les séditieux, concilie et en quelques années reconquiert ce royaume. » Je ne vais pas lire tout son discours, rassurez-vous, mais c'est quand même tout à fait intéressant. Et je dois dire que je me suis occupé déjà en 1989 du 4e centenaire de l'avènement d'Henri IV, qui tombait effectivement une année où il y avait une certaine concurrence dans les célébrations nationales, mais qui était une célébration nationale pour laquelle le président de la République, François Mitterrand, avait accordé son haut patronage et qui a été ponctué de beaucoup de manifestations. Je pense à des expositions, aux 5 colloques que nous avons organisés à l'époque, et une journée tout à fait importante à Pau, avec de nombreuses personnalités. Le gouvernement était représenté, c'était Alain Decaux, ministre de la Francophonie à l'époque. Il y avait les maires de Chartres, de Fontainebleau, de tout un ensemble de lieux henriciens, de Sully-sur-Loire. Et c'est là aussi, ça montre que Henri IV n'est jamais perçu comme un roi qui divise, mais c'est un roi qui rassemble. Et c'est dans cet esprit qu'a été lancé le programme des célébrations du 4e centenaire de son assassinat, qui a lieu cette année, avec la même chose, célébration nationale, au patronage du président de la République et lors du lancement de l'année Henri IV qui a eu lieu à Rome en décembre dernier. Un message du président de la République a été lu pour ce lancement par l'ambassadeur de France près le Saint-Siège devant la superbe statue d'Henri IV qui se trouve à Saint-Jean-de-Latran. Et l'aspect officiel sera aussi marqué par les dépôts de gerbes rue de la Ferronnerie le matin. Le président de la République sera représenté à la messe à Saint-Denis par son directeur de cabinet, ce qui est quand même important et qui est un geste qui a une vraie signification. Et le soir, ce sera une espèce d'apothéose devant la statue du Pont-Neuf, cette statue si populaire et si proche de nous et que nous pouvons apercevoir à travers les arbres. Eh bien, ce jour-là, le 14 mai à 22h, un hommage officiel sera rendu par Frédéric Mitterrand, ministre de la Culture et de la Communication, qui sera suivi de l'embrasement et la mise en lumière d'une installation de Jean-Charles de Castelbajac. Petit clin d'œil contemporain pour un anniversaire qui est tourné vers le vivre ensemble et vers l'avenir.
Merci infiniment Jacques Perrault. Nous arrivons au terme de notre émission. Merci d'avoir fait revivre cette image du roi Henri IV. On peut peut-être donner l'adresse d'un site internet pour ceux qui voudraient suivre les commémorations liées à l'anniversaire de cette année.
Oui, tout à fait. Alors, il y a le site de la Société Henri IV, c'est www.societe-henri-iv.eu. Et je n'ai pas eu l'occasion de le dire, mais va être lancé et rendu public un site qui sera permanent sur l'histoire d'Henri IV. Un site extrêmement important qui a été créé par le ministère de la Culture à l'occasion de cet anniversaire, avec d'ailleurs la participation de la société Henri IV, et qui sera donc présent sur le site du ministère de la Culture dès le 14 mai. Mais c'est vraiment un site interactif qui sera donc, comme je le disais, permanent, et qui donnera tous les aspects de la vie d'Henri IV. Il y a notamment aussi bien un volet musical sur son époque que les arts, que la poule au pot. Il y a même la recette de la poule au pot. Et donc, vous voyez que Henri IV revêt de multiples facettes.
Merci infiniment, Jacques Perrault. Au revoir à tous et à toutes.